Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Chaque personne capte les ondes, ramasse un miel. Suzanne Chantal savait qu'André Malraux, auquel elle avait consacré un livre, « Le cœur battant », sa relation avec Josette Cloris, qu'André Malraux captait les ondes et ramassait un miel. Ce furent aussi les qualités de Suzanne Chantal. Elle qui, employée de banque, devint journaliste, puis romancière, critique de cinéma et surtout rédactrice de Cinémonde, après avoir déjà publié, sans le savoir, deux articles dans cette revue. Cinémonde, le début des pin-up, le courrier des lecteurs, les critiques, les reportages, les interviews de vedettes, chez elle, en vacances, etc. Le but, faire aimer le cinéma. Mémoire du siècle, Suzanne Chantal, première diffusion sur France Culture le 7 août 1992.
Mémoire du siècle. Aujourd'hui, Suzanne Chantal. Suzanne Chantal, romancière, journaliste, dactylo, conférencière, rédactrice en chef de Cinémonde à 22 ans, 35 volumes publiés, trois ouvrages couronnés par l'Académie française, quelques titres au hasard, Dieu ne dort pas, La sirène blessée, La vie quotidienne au Portugal, Erva Moira, Un an et un jour, Le cœur battant, Le cinémonde, de nombreux guides sur le Benelux, l'Irlande, le Portugal, l'Écosse. Imprévisible et indépendante, sa fille dit d'elle, si c'était une fleur, ce serait une rose trémière, car malgré son aspect délicat, quelles que soient les intempéries, c'est une plante qui redémarre toujours. Elle a rencontré Charcot, Kessel, Henri de Montfrette, Chardon, Cerdan et le duc de Windsor, Paul Morand, Colette, Kessler, toujours à l'écoute des autres, témoin attentif. André Malraux lui disait « Racontez ». André Malraux vous disait « racontez ».
Ah oui, mais ça, je peux me vanter de dire que souvent, je l'amusais beaucoup parce que je lui racontais toutes sortes de choses. Et il était quelqu'un à l'affût. Tout lui servait, vous comprenez, les petites histoires. Et ce qu'on ne voit pas du tout chez Malraux, le côté Malraux, c'était son côté... qu'il aimait les gens, qu'il était sympathisant, qu'il était ouvert. Alors, même les histoires de bonnes femmes, c'était sa joie. Enfin, quand nous le racontions nos petites histoires, il n'y en avait aucune qui trouvait dérisoire. C'était toujours important et souvent, enfin, là, ça a l'air absolument mettre une plume à mon chapeau, mais dans les livres de Malraux que j'ai accompagnés, parce que c'est seulement quelques livres, je vivais vraiment avec sa famille, avec lui, enfin sa famille d'alors, et des histoires qu'on lui racontait qui sont dans les livres une ligne, mais enfin, il y a un petit clin d'œil, on sait, parce que... Il aimait aussi... c'était pas quelqu'un, comme on croit, qui est toujours en train de faire des théories. Évidemment, son langage, surtout quand il y avait quelqu'un d'étranger, était toujours à un certain niveau qui vous soufflait, parce que vous croyez, vous veniez de lire un livre en disant « moi je sais des choses, je vais lui dire », et puis il disait « ah oui », puis il enchaînait, il vous disait 10 fois plus. Mais, je veux dire, dans le courant de la journée à 24 heures, et quand même j'ai passé une dizaine d'années à le voir constamment, et j'ai passé 2 ans entiers complets, à temps complet, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Et alors il aimait beaucoup qu'on raconte, il trouvait que chaque personne, en somme, capte des ondes, ramasse un miel, et lui, il aimait l'entendre. Il en tirait quelque chose pour son plaisir ou quelque chose pour son œuvre. Pas beaucoup, parce que on n'était pas dans ses sujets. Mais l'accessoire, le détail, il aimait beaucoup parler, non seulement avec moi. L'histoire de l'électricien dans Le cœur battant est significative. Un électricien était venu pour un seul électricité. Et il travaillait, il n'avait pas de contact, et puis, enfin, il ne connaissait pas grand-chose à une installation électrique, moi non plus d'ailleurs, mais je lui servais de... j'expliquais, voilà, il voudra son bureau ici, et l'électricien m'a dit, mais Malraux, c'est le Malraux. J'ai dit, oui, c'est le Malraux. Ah, oh, j'aurais tellement le voir. Alors, je ne pouvais même pas aller dire à Malraux qui travaillait, venez donc, parce qu'il y a l'électricien qui veut vous voir. Mais je me suis arrangée, je lui ai dit, venez voir, parce que moi, je ne comprends pas du tout où vous voulez la lumière, si c'est par devant, c'est par derrière. Alors, il est venu, il a commencé à parler à l'électricien de comment il voulait la lumière, et puis 2 heures après, il était encore là à parler à l'électricien. Et pendant 1 mois, c'était devenu, on en riait d'ailleurs, parce que comme il n'avait aucun lien avec l'extérieur, c'était l'électricien qui lui transmettait tout. Et il disait, comme disait l'électricien, enfin, c'est parce que pour lui, l'électricien était devenu vraiment ce qu'il raccordait au monde. Et par nous, par Josette, par énormément de gens qu'on fréquentait, il avait un contact avec un paysan, avec une femme plaquée, avec une femme qui attendait un enfant, avec toutes sortes de gens à travers des personnes qui étaient proches de lui, et que dès qu'on l'approchait un peu, on n'était pas du tout muselé, comme souvent on l'a rencontré dans des circonstances officielles. Oui, moi j'ai toujours aimé raconter, j'aime bien quand on raconte des histoires, j'aime bien en raconter, puis j'y prends plaisir moi-même. Mais je sais une chose, qu'une histoire, il faut la commencer à son début, et il faut la filer. Par exemple, quand vous faites du crochet ou du tricot, et que vous avez une grosse pelote de laine, si vous prenez le fil, le bout de fil qui est apparent, vous allez, au bout d'un certain temps, la pelote va rouler et le fil va s'embrouiller. Il faut aller chercher au cœur de la pelote, il faut aller chercher avec soin l'autre bout du fil, et prendre ce bout du fil et le tirer doucement. Et à ce moment-là, toute la pelote se déroulera sans jamais s'embrouiller. C'est ça qu'il faut faire avec un récit. C'est-à-dire, il faut chercher quel est le point de départ de l'histoire, parce qu'une fois on dit « passons au déluge », c'est pas vrai. Il y a des histoires qui ne valent que par leurs racines. Pourquoi ? D'où elles viennent ?
Suzanne Chantal, vous écrivez depuis, vous m'avez dit, depuis que j'ai 6 ans.
Je ne sais pas, depuis que je tiens un crayon, je suppose, depuis que je sais écrire. Parce que j'avais la chance. Non, il se trouvait que mon père était parti à la guerre le jour de la Sainte-Suzanne de 1914, et qu'il était sur divers fronts, et il avait trouvé un petit moyen bien innocent de nous faire savoir où il était. Enfin, en mettant des fautes d'orthographe qu'on repérait, on arrivait à savoir s'il était à tel village d'Argonne avec des cartes. Ma mère avait une carte de géographie. Et donc, nous pouvions lui écrire. Et moi, j'écrivais. Et j'écrivais avec une joie extraordinaire, illustrée d'ailleurs, à ce moment-là, je fais des albums. Et j'écrivais beaucoup, ma mère écrivait tous les jours, mais elle n'était pas quelqu'un qui savait beaucoup écrire, elle écrivait une petite chose. Moi, je lui racontais beaucoup, beaucoup de choses, et il aimait beaucoup ses lettres. Et il les gardait, il disait d'ailleurs, c'est mon meilleur bouclier, parce qu'il les gardait dans sa capote. Et ça, ça a duré pendant 4 ans, où j'ai écrit à mon père. Et puis ensuite, j'ai écrit pour mon plaisir des petits romans qui sont bien perdus, des romans de gosse. Et puis j'ai écrit le journal de ma vie, évidemment. Mais pas du tout. Alors le journal de ma vie, j'ai essayé par tous les moyens de persuader les gens de tenir un journal. Parce que c'est une chose précieuse. Si cette maison prenait feu et qu'on me dit « qu'est-ce que vous sauvez ?» Moi, je sauve ce qui est là dans le rayon, là, c'est-à-dire mes albums. Parce que... c'est pas du tout littéraire, hein. C'est pas du tout le soir tombe, la mélancolie ou remplit mon cœur. Même quand j'avais 15 ans, j'écrivais pas comme ça. J'écrivais ce qui s'était passé. J'écrivais qui j'avais vu, qu'est-ce qui m'avait frappé, etc. Vous comprenez? C'est la préciosité, on garde la vie vivante, on la garde absolue. C'est pour ça que j'ai pu faire le cœur battant. Parce que j'avais noté, jour après jour. D'abord, j'étais à l'école. Et puis, je voulais faire du institutrice, pas professorat, hein, parce qu'on ne voyait pas si loin. Mais on m'a dit, à la dernière année, c'est-à-dire l'année de l'école normale, pas supérieure, hein, élémentaire, primaire, on m'a dit, non, vous n'avez pas la voix qui est suffisante pour faire un cours. Par conséquent, il faut vous recycler. Alors, moi, je ne savais absolument rien faire d'autre. Comptabilité, les postes, etc., ça ne me passionnait pas. Alors, j'ai quitté l'école sans dire à mon père ni à ma mère. Et puis, je suis allée me présenter dans une banque. Parce que j'avais un cousin qui, d'ailleurs, était mort, qui avait été employé dans cette banque. Je suis allée là, comme ça, frapper à la porte. en disant je vais travailler. Mais enfin, ça se passe évidemment en 1923, hein, je ne dis pas que maintenant ça marche. Et on m'a engagée. Et puis tout de suite, c'était une imbécilité. On m'a engagée pour aller faire les courses. On m'a engagée pour ranger les vieux coupons dans les boîtes à chaussures. À ce moment-là, il n'y avait pas de bureautique. Hein. Et j'ai compris que je m'étais gourée. C'est là où il y a l'histoire de Jeanne. Bien. Et qu'est-ce que je pouvais faire, étant donné que c'était idiot ce que je faisais. Je ne faisais pas, parce qu'on ne s'occupait pas beaucoup de moi. Je lisais. Et cette banque était installée dans un appartement qui avait été réadapté, et mon bureau, qui était une espèce de petite boîte, enfin toute petite, sur la cour, donnait sur la cuisine. Et dans la cuisine, il y avait une femme de ménage. Et la femme de ménage me voyait, et je ne déjeunais pas, parce qu'avec l'argent que mes parents me donnaient pour déjeuner, j'achetais des livres. Alors elle était là, et comme c'était une brave femme, et que moi, à ce moment-là, j'avais 17 ans, elle me disait, vous abîmez la santé, mon petit, et elle me faisait des tartines de beurre, etc. Et un jour, elle est venue, et elle m'a dit, vous aimez les livres? J'ai dit, ah oui, j'aime beaucoup les livres. Eh bien, moi, elle m'a dit, j'en ai un de livre. Et j'ai dit, ah oui, mais c'est bien ça, Jeanne, d'avoir un livre. Qu'est-ce que c'est? Vous imaginez, enfin, moi, à 17 ans, la femme de ménage avait un livre. Et elle m'a dit, je vous l'apporterai parce que vous savez, je ne l'ai pas lu. Elle savait lire. Je ne l'ai pas lu, c'était trop difficile. Alors j'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'était, un livre? Ah, je vous l'apporterai. Et elle m'apporte un livre et je regarde ce livre, c'était Simon le pathétique de Jean Giraudoux. J'ai ouvert le livre pendant les heures de service, hein, parce que je faisais pas grand travail, et j'ai lu et j'ai été foudroyée. Enfin, la foudre, hein, la foudre qui tombe, parce que j'avais jamais lu que des trucs. Enfin, j'avais lu Zola, j'avais lu les livres, j'avais lu Loti, j'avais lu des livres, mais j'avais jamais lu Giraudoux. Et j'ai été foudroyée, et j'ai regardé le livre, et sur la première page, c'est-à-dire à la page de garde, il y avait écrit « Pour Jeanne qui m'a sauvé la vie, Jean Giraudoux ». Alors j'ai appelé Jeanne, j'ai dit, mais ce Giraudoux, comment vous le connaissez? Ah, ben c'est que pendant la guerre, à l'hôpital de Châteauroux, j'étais infirmière, enfin j'étais, elle vidait les pots, pour tout dire. Et alors là, il y avait un soldat qui était blessé, il était si gentil. Alors je le soignais, et un jour il m'a dit, Jeanne, vous m'avez sauvé la vie, parce que vraiment, je vais vous donner un livre. Il m'a donné ce livre et je n'ai jamais pu le lire. C'était Giraudoux. Je vous dis, les rencontres comme ça, il y en a partout, tout le temps. Seulement, les gens ne vont pas tous dans la cuisine parler à Jeanne. Ou Jeanne ne vous apporte pas toujours son livre. Mais que ça soit à la portée de tout le monde, moi je dis que ça arrive tout le temps. Alors pour moi, ça a été un enrichissement que vous imaginez d'avoir Giraudoux. Puis il a écrit, il n'a pas écrit pour moi, mais il a écrit Suzanne et le Pacifique, ça fait plaisir. Et je voudrais aussi que, pour mes filles, j'ai réussi. Les persuader que la vie, tous les matins, c'est une aventure et qu'on va trouver quelque chose et quelqu'un.
Et quelle est la rencontre qui vous a amené à Cinémonde, alors?
Ah, la rencontre qui m'a amené à Cinémonde, c'est encore une chose qui est en démenti de ce qu'on dit généralement. Quand j'étais dans cette maison de publicité qui a disparu, une maison
parce américaine... De la banque, vous avez quitté la banque?
J'ai quitté la banque parce que j'ai trouvé que c'était idiot. Mon père m'avait dit, quand je suis rentrée en disant j'ai quitté l'école, je ne veux plus aller à l'école, je me suis trouvé une place. Il m'a dit, bon, tu feras ce que tu voudras, mais tu le regretteras dans 3 mois. Je l'ai regretté au bout de 8 jours, parce que j'ai vu que c'était une voie sans issue. Mais j'y suis quand même restée. J'ai appris la sténo et la dactylographie. Et puis j'ai lu beaucoup de livres, et puis je me suis laissée vivre. Et puis à un moment donné, je trouvais que j'en avais assez. Et j'ai lu dans le journal, une annonce où on demande sténodactylo, sachant l'anglais, sachant écrire, bonne connaissance d'anglais, etc. J'ai dit c'est pour moi, je savais très mal l'anglais, j'écrivais parce que comme ça. Et alors je suis arrivée là, il y avait foule. J'avais aucune chance parce que j'entendais les gens, ils avaient tous des références, etc. À midi, on nous a dit aller déjeuner, je reviendrai à 2 heures. Et au moins, au lieu de revenir à 2 heures, je suis restée. J'ai vu un monsieur qui passait qui avait l'air gentil. Je lui ai dit, je crois que je ne suis pas qualifiée pour la place, mais peut-être il y en a une autre, plus simple. Il m'a dit, pourquoi vous voulez absolument entrer chez nous? Je lui ai dit, ah, parce que ça me plaît, etc. Il m'a dit, ben, venez dans mon bureau, c'était le directeur pour la France. Ça, c'est des hasards, des chances. Et j'étais engagée à 2h de l'après-midi. Et alors, j'avais un petit boulot, hein, on ne m'a pas engagée comme on engage une vedette. Et là, j'ai appris tout le métier de publicité. Et il y avait des journalistes qui venaient me demander des renseignements sur les vedettes d'alors, sur Billy Dove, sur des vedettes tout à fait oubliées. Hein. Et Alors, au lieu de leur donner des photos comme ça, moi, je faisais des petits textes, ça m'amusait. Alors, je faisais des textes, notamment sur Billy Dove, je me rappelle. Je les donnais à ce garçon qui s'appelait Hirschman, je me rappelle aussi. Et à un moment donné, il y a eu fusion entre deux grandes maisons, bouleversement. Et moi, j'avais plus envie de rester là parce que tous mes amis étaient mis à la porte. Et moi, je me disais, ça m'embête. Puis enfin, à ce moment-là, j'avais 19 ans, je pouvais changer, hein. Alors, ce garçon, ce Hirschman, est venu pour me chercher de nouveaux renseignements. Et je lui ai dit, mais je ne serai plus là la semaine prochaine. Ah, ben ça, c'est embêtant parce qu'il était bien content de venir chercher puisque c'était tout cuit. Alors, il me dit, pourquoi vous n'entrez pas à Cinémonde ? Cinémonde venait de se fonder, juste venait d'ouvrir. Alors, j'ai dit, au Cinémonde, mais moi, je ne suis pas journaliste. Il m'a dit, si vous êtes journaliste, vous avez déjà publié dans Cinémonde. Je dis, moi, j'ai publié dans Cinémonde. Oui, parce que les deux derniers articles que j'ai donnés, c'était vous qui les aviez écrits. Et effectivement, il avait pris ce que je lui avais donné comme copie, il l'avait passé sous son nom, bien entendu. Et alors il a dit, d'ailleurs je vais le dire à Gaston Thierry qui était le rédacteur en chef, et je vais vous présenter à Gaston Thierry. Vous voyez quand on dit, ah les gens se tirent dans les pattes, ils veulent... C'est pas vrai ce garçon qui n'avait aucune... Il avait peut-être 23, 24 ans, qui avait sa carrière à faire, qui avait aucune espèce de visée sur ma séduction personnelle, hein. Rien du tout. Il m'a fait entrer à Cinémonde. Je suis entrée à Cinémonde dans le rang. Et puis un jour, le rédacteur en chef, qui était Maurice Bourdet, qui est mort en déportation, a eu l'occasion d'accompagner le grand vol. Qu'est-ce que c'est ce vol sur l'Abyssinie ou sur enfin, des régions inconnues. Il intéressait beaucoup plus à l'aviation qu'au cinéma. Il m'a dit, pendant que je voudrais partir seulement, il faut que je tout de suite que je parte. Pendant 3 mois que je ne serai pas là, vous ne pouvez pas me remplacer.
Il était rédacteur en chef.
Il était rédacteur en chef. Mais c'était, vous savez, ce n'était pas une grande rédaction, c'était des amis, on était tous jeunes. Il y avait Carnet, cette petite tête de cochon, qui était journaliste. Il y avait Maurice Bessy, il y avait Lucie Dorin, il y avait enfin, une bande de jeunes, le plus vieux n'avait pas 30 ans. Donc j'étais rédacteur en chef, j'étais responsable, je devais aller à l'imprimerie pour signer les... C'était tout, parce qu'on faisait ça en camarade. Qu'est-ce que ça fait cette semaine-là? Moi j'ai une petite, j'aimerais bien en parler, parce qu'elle est pas mal. Hein.
Et c'était qui la petite?
Ah ben, ça dépendait du garçon, vous comprenez. Et on faisait comme ça un petit conseil de rédaction. J'étais pas du tout, enfin, j'étais rédacteur en chef. Oui, en titre, je touchais aussi le salaire. Mais j'avais aucune autorité, sinon l'autorité reconnue par mes pairs. Enfin, on avait le même âge. Et puis alors, quand Maurice Bourdet est rentré, il a dit, moi, ça m'intéresse plus du tout le cinéma parce que je viens d'être nommé en Poste Parisien. Il lâchait et il a dit, ben voilà, moi, je ne reviens pas. Et Jean-Michel Pagès, qui était l'administrateur dans le Petit Parisien, Cinémonde appartenait au Petit Parisien, c'était, a dit, mais on n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'il y a quelqu'un qui, depuis 3 mois, fait fonction de... Et on la maintient, on l'officialise. Alors, je suis devenue rédacteur en chef officiel. Mais comme ça, sans savoir...
À 22 ans.
Pardon ?
À 22 ans.
À 22 ans. Il ne s'agissait pas de savoir des tas de trucs. Il fallait aimer le cinéma, il fallait se déplacer, il fallait cavaler parce qu'on n'avait pas de voiture. Et puis il fallait à Joinville, et puis il fallait aller à Billancourt, et puis il fallait à Épinay. Ce n'était pas du tout maintenant, quand je vois tout ce monde, qui vraiment, il faut qu'il y ait la voiture et qu'on puisse ranger la voiture. Moi, j'ai fait des années le studio de Joinville avec le petit train de la gare de la Bastille.
Et quand vous alliez au studio de Joinville, c'était pour faire des interviews de...
Ah ben c'était, c'est-à-dire que Cinémonde s'était partagé la rédaction, nous les copains, hein. Bon, ça s'appelait pas comme ça à ce moment-là, mais enfin la petite équipe que je fréquente toujours, Maurice Bessy qui a mon âge, on est toujours comme on s'est connus, enfin dans le même rapport. Alors la rédaction, on avait très peu de moyens, on n'avait pas de liste de frais, on n'avait rien du tout. Alors donc chacun avait son studio, et moi j'avais Joinville qui était le plus gros, hein, c'était Nathan. Il y avait aussi le Saint-Maurice qui était Paramount, il y avait Billancourt, enfin, je ne sais plus ce que c'était. On se partageait le travail, et donc on était en rapport étroit avec ce studio. Où c'était des gens sous contrat. Monsieur Maurice Tourneur, Monsieur Duvivier, Monsieur Raymond Bernard, tous ces gens-là.
Je crie, je ris, tout me sourit, je suis heureuse aujourd'hui. Mon petit cœur, j'en ai bien peur, va se briser de mon âme. Comme dans les romans.
L'enseignement des parures, il a fait sensation. En solide, arraché. Pourquoi? Parce qu'avant, les journaux de cinéma, il y en avait. Et ils n'étaient pas mauvais, c'est pas qu'ils étaient mauvais, mais c'était le premier magazine, c'était même pas magazine, enfin, publication en héliogravure. C'est-à-dire que tout d'un coup, on pouvait faire des grandes couvertures, le format était grand, qui était très beau, très lisse, les visages étaient superbes, c'était le moment des photos d'Harcourt. Tout d'un coup, les vedettes qu'on voyait toujours comme si elles avaient eu la vérole dans les clichés à traits, les clichés en plomb, c'était généralement avec ça qu'on faisait les reproductions, tout d'un coup, elles apparaissaient superbes et puis en grand. Par conséquent, c'était le début des pin-up. On pouvait découper ça et le mettre sur le mur. Et ça avait 24 pages, je crois, pas plus. Mais on parlait de tout. Il y avait le courrier des lecteurs, il y avait les reportages, il y avait des critiques, il y avait des interviews des personnalités, il y avait des photos des vedettes, des belles photos des vedettes, les vedettes chez elles, les vedettes en vacances, etc. Et le rôle de cinéma, celui que nous étions fixés, c'était de faire aimer le cinéma. Alors on présentait tous les gens de cinéma. Moi j'ai fait des interviews pas seulement de toutes les vedettes de l'époque, mais aussi des maquilleurs, des machinistes, tout le monde. C'était l'univers du cinéma. Et alors comme on avait un studio et que ça a duré pendant quand même juste tout, pour moi, ça a duré tout l'entre-deux-guerres. Naturellement, Monsieur René Clair, que maintenant il est un peu oublié, mais René Clair c'était un des rois. Eh bien René et ça se passait au moment où le parlant venait. C'est-à-dire un moment clé. Je me souviens que René Clair avait presque les larmes aux yeux quand on a sorti un film avec Liliane Harvey. C'était la première opérette où le son, au lieu, les premiers films parlants, c'était du théâtre qu'on filmait. C'était Gaby Morlaix, c'était Popesco, on prenait simplement le théâtre et puis on le filmait. Et René Clair a dit, cinéma, c'est pas ça. Il est resté un moment sans tourner et puis il a fait un film qui était Sous les toits de Paris, où le son intervenait, avait un rôle. C'était pas du dialogue écrit, c'était du dialogue parlé. Et il y avait les bruits de la rue, il y avait les chansons, il y avait les autobus, il y avait tout. Alors René Clair avait fait ce film, et puis les Allemands à ce moment-là ont sorti un film avec Liliane Harvey et Willy Fritsch, qui était exactement ça, où il y avait un klaxon de voiture qui servait de signal. Et c'était un film sur lequel le succès était tellement assuré que le jour de la présentation à la critique, on nous a distribué des petits sifflets à la critique, parce qu'il y avait des présentations corporatives. Et on avait un petit sifflet, si vous n'aimez pas, vous sifflez. Et vraiment, c'était ravissant. Et je suis allée voir René Clair, moi, toute contente, en lui disant, ah, vous savez, mais alors il m'a dit, oui, ça me fout tout par terre. Parce que je croyais être le premier à utiliser le son, pas seulement dans l'enregistrement de dialogue.
Tu vois, ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien unis. Nous sommes seuls, ici-bas, on ne s'en aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà. Tant que tu m'aimes bien, je n'ai besoin de rien, près de ta maman, tu n'as pas de tourment.
C'est un cinéma dont on était tous jeunes, et on était très, très liés, enfin on n'avait pas de rivalité. Peut-être un petit peu de temps en temps, oui, tu m'as piqué mon idée, mais enfin, ça n'allait pas plus loin. Et on était sympathiques. J'ai quelqu'un qui m'a dit récemment, ah oui, le cinéma, on est très bien logé. On avait un très, très, très bel, très beau local aux Champs-Élysées. Et les gens venaient comme à un club. La rédaction n'était pas fermée à clé, les gens entraient, sortaient. Et par exemple, Siménon, qui à ce moment-là n'était pas le vieux bon ce qu'il est devenu, qui était un jeune homme aussi, il faut toujours replacer ça, qu'on était jeune. Hein. Siménon était venu, il s'était bien plu, et puis alors je lui avais dit, il faut me faire un article. Alors il m'avait dit, ça vous coûterait trop cher. Ben je lui ai dit, alors le faites pas. Il m'a dit, ben non, je le fais, mais à l'œil. Et Siménon a écrit dans Cinémonde, à l'œil. Alors il y avait Carnet, comme je vous dis, qui était une petite teigne, mais qui quand même aimait bien écrire dans Cinémonde, parce que c'était très, très, très lu. Carnet est un ancien rédacteur de Cinémonde. Alors on allait partout parce qu'on avait envie d'y aller et de rencontrer des gens. Personnellement, moi j'avais vu, avant d'entrer dans le journalisme, j'avais vu un film qui était sorti par la maison américaine où je travaillais, qui était le premier Thérèse Raquin de Feder. Et ça m'avait bouleversé, absolument bouleversé, en muet. Et j'ai eu l'occasion d'approcher Feder. Ben, pour ça, vous savez, moi, j'avais pas besoin qu'on n'aurait pas besoin de me payer pour ça. Il y avait un film extraordinaire qui était l'Atlantide, qui a un succès énorme qu'on a complètement oublié. Mais j'avais Brigitte Thelme, qui était, mais il n'y a pas de vedette, si Garbeau peut-être, mais qui a eu à ce moment-là un tel impact. Eh bien, on me disait, allez interviewer Brigitte Thelme. Vous vous rendez compte, moi, j'étais contente. Et puis j'allais voir Brigitte Thelme. Et au lieu d'être cette espèce de figure de proue, de statue, c'était une petite Allemande qui était plus petite que moi et qui avait une peur bleue, qui me disait, me quittez pas parce que je vais avoir ma conférence de presse. C'était très sympa, vous comprenez? C'était très, très chaleureux. Et alors, on avait l'appui des grandes maisons américaines qui savaient très bien utiliser tout cet enthousiasme. Et alors, un jour, on a dit, on va faire un concours de beauté. Alors, on a fait un concours de beauté, il nous est venu de tout. C'est quand on fait un concours de beauté, c'est drôle, parce que les filles qui se présentent, il y en a des superbes, mais il y en a, on se demande où est-ce qu'elles se voient. Hein. Bien, on en a sélectionné, et là, j'avais lancé quelque chose, c'est que comme je suis une, j'étais une femme qui n'avait enfin, pas tellement d'argent, j'avais des petits problèmes comme tout le monde, et j'avais Josette Clotis, qui avait raté un concours de beauté, parce qu'elle avait une très belle robe qu'on lui avait prêtée, mais elle n'avait pas de souliers, elle avait des godasses de sport. Et comme elle était ex aequo avec une concurrente, on a dit, levez les jupes. À ce moment-là, elle avait des jupes plus que par terre, c'était des robes du soir. Et elle avait des jambes absolument divines. Seulement, elle ne pouvait pas lever sa jupe, parce qu'elle avait des chaussures de sport. Et elle a refusé de lever sa jupe. Par conséquent, on a élu l'autre. Et ça, je me suis dit, si moi je fais un concours de beauté, je ne veux pas qu'il y en ait une qui aille chez le grand coiffeur et qui a la belle robe, et l'autre qui va avec un petit poulet vert. Alors, j'avais fait payer, je ne sais plus qui, pour qu'un grand couturier fasse 12 robes, pareil. Un coiffeur, le même coiffeur, le même maquilleur, le même bottier, de façon qu'elles soient toutes égales. C'était encore pas vrai, l'égalité, ça n'existe pas. Parce qu'il y avait des robes qui allaient mieux. Enfin, une robe de velours noir, évidemment, pour une blonde, c'est assez joli. Mais elles ne s'étaient pas faites toutes pareilles. On avait dû avoir un petit autre modèle. Mais enfin, c'était le même modèle. Et on a présenté ces 12 filles dans une grande, grande soirée, avec le public, hein, un grand public. Et on avait une ou deux qu'on avait dans l'œil. On se disait, celles-là, elles ont des chances. Et puis, il y avait la petite Jacqueline, qui était mignonne, qui était bête comme ses pieds. Alors, elles entraient, elles tournaient et elles ressortaient. Alors, elles sont passées, des applaudissements, plus ou moins. Et puis, Jacqueline est entrée. Et quand elle a tourné, ils étaient décolletés jusqu'aux reins, hein, ce qui était pas très, à ce moment-là, pas très la mode, mais enfin, c'était un concours de beauté, c'était pas en maillot de bain. La salle a croulé. Mais croulé! C'était une statue petite, hein, elle n'était pas très grande. Et on l'a élue. Et moi, je l'ai emmenée aux États-Unis. Et quand on est arrivé aux États-Unis, Maître Goldwyn avait envoyé sur le bateau un avion qui jetait des roses sur le France. Et elle était dans sa cabine parce qu'elle s'était cassé un ongle. Il était sous-entendu qu'elle avait un bout d'essai qu'on a fait à New York. On est resté 15 jours, 3 semaines.
Elle l'a fait, ce bout d'essai?
Elle l'a fait, mais comme un manche, absolument. Elle avait aucun répondant, aucun, rien. Et puis alors, on n'est pas allé à Hollywood, mais moi j'avais compris que c'était loupé tout de suite. Et on est revenu à Paris, et pour sauver la mise, parce que pour Cinémonde, c'était pas très réussi, pour sauver la mise, à ce moment-là, il y avait un très grand jeune premier, complètement oublié, qui est mort dans la misère, qui s'appelait Henri Garat. C'était un chanteur d'opérette. Mais on mettait ses baisers, pour les œuvres de bienfaisance, un baiser d'Henri Garat, on se le disputait à des milliers de francs de l'époque. Hein. C'était vraiment le...
sont minces et rares les distractions. N'est pas gai la vie de province, on ne rit pas beaucoup à Rion. Quel supplice de tantale d'être loin de la capitale. Pour nous consoler, pauvres exilés, et nous ne pouvons qu'en parler.
C'était quelqu'un qui était extrêmement gentil, extrêmement étonné de son succès. Et il aimait bien voir sa photo. Alors, n'importe quoi, je lui demandais, il marchait. Je lui ai dit, voilà, nous avons ce pépin. Il tournait à ce moment-là pour Paramount, il m'a dit, mais moi, je vais jouer une scène avec elle. C'est absolument comme si maintenant, avec Delon, ou avec Bruel, ou avec quelqu'un de cette ordre, ou avec Johnny Hallyday, qui me disent, bon, ben, votre gamine, vous me l'amenez, et puis on va obtenir que le metteur en scène, on va inventer une scène où elle sera. Vous imaginez la chance, hein? On n'a rien pu en tirer, la scène, on n'a même pas pu la présenter, on a dû la couper. On avait pris Cinémonde pour représenter la presse cinématographique française, parce que c'était ce qui avait le plus grand impact. Il y en avait la même chose en Belgique, il y avait la même chose en Hollande, il y avait la même chose en Hongrie, il y avait la même chose en Espagne. Il y avait, et alors tout, c'était les concours de Miss Monde, après tout. Et elles étaient à Hollywood, et alors là, ils avaient autour de Jean Harlow, chaque pays suivait sa concurrente, s'intéressait, passait des échos, il n'y avait pas à ce moment-là, évidemment, de télévision, mais les journaux étaient pleins de chacun la sienne, comme un concours de beauté ordinaire. Ouais. Et Maître Goldwyn avait des moyens tellement puissants que, vous savez, de déplacer tout ce monde, ça ne les gênait pas du tout. Et puis, ils avaient la chance de pouvoir trouver quelqu'un. Il y a des vedettes qui ont été trouvées comme ça, à suite de concours très bêtes. Ava Gardner, à la suite d'une photo qu'elle a envoyée. Enfin, c'est le cinéma, vous savez bien que tout d'un coup, on sent quelque chose. Et il y a derrière, il y a un visage, et puis derrière, il y a une personnalité. Et ça marche comme ça. Alors, Cinémonde a marché comme ça très bien jusqu'à la guerre.
Alors, comment vous l'avez rencontré, Rému?
Ah, Rému, je l'ai rencontré... Attendez, dans quel film? Ah oui, ça, celui-là, c'était... Ben, celui-là, il n'était pas chez Pathé Nathan. Je l'ai rencontré au théâtre. Attendez, parce que Maurice Bourdet, oui, toutes les choses se tiennent, Maurice Bourdet était marseillais. Et Pagnol disait, c'est le seul marseillais qui n'a pas l'accent. Il était très distingué, Maurice Bourdet. Et il m'avait envoyé voir Pagnol. Il faut faire une interview de Pagnol. Et Pagnol, à ce moment-là, jouait Marius, enfin, faisait jouer Marius. Et moi, Rému, il m'a fasciné, vous vous rendez compte. Rému, c'était un type qui avait une chaleur. Et en même temps, c'était curieux, parce qu'il avait l'air d'un bougnat, puis il avait des mains soignées, il avait des gestes charmants. C'était une personnalité étonnante. Et il avait la réputation d'un ours. Et personnellement, encore une fois, je rappelle que j'avais 22-23 ans, et donc, il disait, il me tutoyait, il me disait, viens me voir. C'est pour ça que j'allais tout le temps le voir. Et comme j'avais acheté à ce moment-là un grand manteau, ça devait être la mode, je ne sais pas pourquoi, ou pas la mode, un grand manteau en drap avec des boutons dorés, il me disait, tu as l'air d'un officier de marine, mon petit capitaine. Et il m'a toujours appelé son petit capitaine. Et j'ai eu des interviews magnifiques avec Rému. Et quand on a inauguré à Bruxelles le Métropole, un grand hôtel et un grand cinéma à côté, en 1930, 4. Oui, 34. On a inauguré, on a fait une fête du tonnerre avec Fanny, comme après présenté Fanny. Alors on avait amené la presse française, j'y étais, et j'étais dans la foule. Et moi j'étais en retard, parce que je ne sais pas pourquoi. Je suis arrivée en traînant derrière, j'ai descendu l'escalier, et Rému descendu l'escalier. Et alors il a vu qu'il y avait les projecteurs, etc. Il s'est retourné, il m'a dit « Eh, viens avec moi, ma petite !» Il m'a pris par le bras et j'ai descendu l'escalier. Je suis sortie dans Bruxelles, je suis rentrée dans l'hôtel Métropole au bras de Rému. C'était extraordinaire, les gens disaient « Qui sait, on ne savait pas ?» Et moi, je crânais parce que Bruxelles, c'était ma ville, il ne faut pas oublier que je suis belge, et que j'avais des amis, mes cousins qui étaient dans la foule. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé, moi j'ai... Enfin, c'était une heure de triomphe qui a duré 3 minutes, hein, le temps de passer là. Et donc, c'était des choses qui vous arrivaient à ce moment-là. Ça n'a aucune importance, mais ça fait plaisir de se rappeler.
Et quel est le metteur en scène de cette époque qui vous a le plus impressionné, qui vous...
Celui avec qui je parlais le plus, c'était René Clair, parce que c'était quelqu'un qui discutait beaucoup, qui raisonnait beaucoup c'était un intellectuel du cinéma et il suivait de très près la critique, c'était un interlocuteur. Mais il y en avait un qui est complètement oublié et qui, moi, j'ai beaucoup, beaucoup admiré, c'était Maurice Tourneur. Maurice Tourneur était une brute épaisse. C'était un homme qui engueulait tout le monde, qui était vraiment désagréable, qui était quelqu'un de, je ne vais pas dire de méchant, il était quelqu'un de brutal. Et il était chauve, il était grand, il était mal. Mais je ne me rappelle plus quel article j'avais fait pour lui. aussi, où j'étais tombée, enfin, parce que c'était même un grand metteur en scène qui a tourné avec Garbeau. Et malheureusement, il était à ce moment-là sur le retour. Et les films qu'il a fait en France n'étaient pas excellents. Alors là, c'est une chose que j'ai ratée dans ma vie, mais complètement, mais ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai toujours rêvé de faire un film. Pas de tourner un film, de faire un scénario ou d'avoir un livre adapté. Et ça s'est présenté 7, 8, 10 fois. Et ça n'a jamais marché. Jamais. Alors la première déception, ça a été Tourneur, parce qu'un jour, il me dit « Ah, il faut que j'ai un film. » Il avait fini un film, et je voudrais avoir une idée de film, J'ai une idée qui me court dans la tête, mais je voudrais faire un film sur un grand magasin. Et je lui dis « Oh, ça serait magnifique, ma mère a été vendeuse aux Galeries Lafayette pendant des années, et moi, les Galeries Lafayette, je les connais d'un point à l'autre. » Parce que j'ai la petite fille des Galeries Lafayette qui allait attendre sa mère, qui attend... les Galeries Lafayette, c'était ma maison. Il m'a dit « Écrivez-moi quelque chose là-dessus. Ah, c'est formidable, quelqu'un qui est entré dans l'intérieur des Galeries Lafayette. » Alors je suis rentrée à la maison, folle de joie, j'ai écrit, je ne sais pas combien de pages, sur un magasin qui était ou le Bonheur des Dames ou les Galeries Lafayette, mais un grand magasin. Et je suis arrivée le cœur battant et j'ai dit où est Tourneur ? Ah, Tourneur, il est avec Nathan à la direction, etc. parce qu'il va commencer son nouveau film. Alors je dis, mais quel nouveau film ? Les deux orphelines. Et ça a toujours été comme ça. Comprenez ? On se lance sur un truc, on y met tout, on se... Vraiment... pour faire quelque chose, et puis tout d'un coup, sans rien ni raison, on fait autre chose. Mon premier roman, Dieu ne dort pas, pendant un an et demi, on a fait 14 adaptations, et on ne l'a pas tourné.
Et vous n'en avez jamais parlé avec lui ?
Non, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, ma petite fille ? Moi, je suis sous contrat, et c'est vrai que c'était des gens qui faisaient pas tout ce qu'ils voulaient, ils étaient en leur... ni les vedettes, vous savez, personne n'est aussi libre qu'on le croit, hein. Même avec la célébrité ou la fortune, il y a toujours un côté où on est soumis à quelque chose.
Les metteurs en scène étaient sous contrat.
Oui, tout ça, c'était à l'année. Tout ce monde-là, c'était à l'année. Elvire Popescu, Gaby Morlaix, Victor Francène. Tout ça, c'était à l'année. Alors, il y avait les grands rôles, les seconds rôles, la petite bière, tout ça était... Alors, on en prenait de temps en temps, on rafraîchissait de temps en temps des jeunes. Alors, on a pris Ronnie Saint-Cyr, Rosine Dorian, qui entraient, puis il y en avait des qui disparaissaient. Et les Américains sont venus pour faire des versions, pour tourner en français, puisque tout était bouleversé. Il fallait que les films deviennent nationaux à ce moment-là. Alors, on a envoyé de l'argent, on a envoyé des équipes, on a envoyé des directeurs, et on a demandé aux Français... qualifiés, enfin, soi-disant qualifiés, qu'est-ce qu'il faut tourner ? Et à ce moment-là, toute une bande d'auteurs de troisième ordre de théâtre ont ressorti tous leurs vieux trucs. Et on fait tourner ça, et ça n'a eu aucun succès. Les Américains, quand ils ont fait leur compte, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Leur bagage, ils sont partis. On a fermé le studio de Saint-Maurice. Mais si vous consultiez la liste de ce qu'on a tourné, comme raclure de tiroirs, c'est terrible. Terrible, parce qu'on s'est dit, oh, les Américains, hein, ils s'y connaissent. On n'a pas fait un film, si, on a fait le Fanny, Marius et César, ça oui. Parce que Pagnol, il avait éclaté, enfin, il s'était imposé, comme les Américains l'ont même refait après en anglais, la trilogie.
Et donc, ces années Cinémonde, ça a duré la
grande
période. Ça a
duré l'entre-deux-guerres. Et alors, ce qui est important, c'est que à ce moment-là, le cinéma c'était le cordon ombilical qui reliait le petit bonhomme qui allait le samedi soir au cinéma, ou vraiment les gens importants. On apprenait le monde à travers le cinéma, parce que tout venait par le cinéma. Le cinéma, il y avait les actualités. Alors quand on les voit maintenant, on rit, évidemment. On voyait les choses. On voyait la mode. On voyait le Palais Bourbon. On voyait la plage l'été. On voyait les gens qui restaient chez eux voyaient quelque chose. Et surtout, on voyait l'Amérique. Moi, quand je suis arrivée en Amérique, mais rien ne me dépaysait. Je savais tout faire. Je savais prendre le métro parce qu'on l'avait vu. L'Amérique était devenue une seconde patrie pour tout le monde.
There's no sun up in the sky. Stormy weather.
since my man and I ain't together. Keeps raining all the time.
Donc, le cinémonde, c'était le monde du cinéma. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas tellement de journaux, il n'y avait pas beaucoup de magazines. Pas beaucoup de magazines illustrés, en tout cas, comme maintenant. Par conséquent, l'image, le monde entier, vous entrait dans la tête. Et on a vu, et alors on a commencé à comprendre, on a commencé à voir les nazis, surtout. Puis tout d'un coup est venu, on a vu alors les déferlements des bottes et des bannières et de tout ça. Et là, on a commencé, la peur est venue avec le cinéma aussi. La conscience du danger. Ça, c'est pour ça que ça s'appelait le cinéma, pour moi. J'avais eu un drame personnel dans ma vie, enfin ma vie, j'avais décidé de changer de vie, une fois de plus. Et j'avais un cafard noir, je me disais, il faut que je change. Et le lendemain, vous entendez bien, le lendemain, ma rupture, c'était le dimanche soir. Et le lundi soir, c'était l'élection de Miss Cinémonde. On faisait une Miss Cinémonde, c'est plus la plus belle blonde, c'était Miss Cinémonde. Et j'étais jurée. Et je ne voulais pas y aller, j'avais le cafard. Quelqu'un que j'avais invité à aller là m'a obligé. Et en arrivant, on m'a dit, il y a un reportage à faire 3 mois en Afrique, voulez-vous partir? Et je suis partie.
C'était un reportage pour quoi en Afrique?
C'était un voyage de souveraineté du président de la République portugaise qui avait invité tous les pays, un représentant de tous les pays qui avaient des intérêts en Afrique, c'est-à-dire la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, quoi encore, l'Espagne, enfin tous les pays qui avaient des colonies, à venir faire le tour des colonies portugaises. Ça durait 3 mois, en bateau, puisqu'il n'y avait pas d'avion à ce moment-là. Et alors le petit Parisien m'a désigné. Et je suis partie, j'étais la seule femme à bord, parce que ça, c'était le grand problème, c'est qu'au dernier moment, on s'est aperçu que j'étais une femme. Alors les Portugais ont dit non, c'est pas possible. Alors j'ai défait mes valises, et puis après on y dit non, les Portugais ont réfléchi, ils ont dit que quand même, ils auraient l'air trop ridicule de refuser une femme. Je suis partie. Et je suis partie en juin 39. Et la guerre nous a pris au milieu du voyage, en mer, dans le golfe de Guinée, et on ne savait pas quoi faire, parce qu'on ne savait pas si le Portugal, du fait de son alliance avec l'Angleterre, devenait automatiquement participant, ou s'il restait neutre. Alors, les premières nuits, on roulait tout feu éteint. On marchait tout feu éteint. Puis, au bout de 3 jours, je ne sais pas qui s'est avisé de dire, c'est idiot, puisqu'on n'est pas encore belligérant, il faut au contraire dire qu'on est portugais. Alors, on a hissé tous les drapeaux portugais, on a mis la lumière sur les drapeaux, et on est rentré comme ça, flamboyant dans la nuit du début de la guerre. Et alors, moi, j'avais des petites raisons pour vouloir retourner. Et je suis repartie au mois de décembre, à 0000, à Lisbonne. Seulement, sur ce bateau, il y avait 40 journalistes masculins et moi. Ils étaient tous contents de dormir le matin, parce qu'en mer, on avait 17 jours de mer, quelquefois. Ils restaient au lit. Et moi, j'ai toujours été du matin. Alors, je me levais, j'allais dans la grande salle à manger prendre mon café. Et puis, il y avait un monsieur en uniforme qui prenait son café au bout de la salle. Et alors, les garçons qui n'aimaient pas beaucoup faire le va-et-vient, ils ont commencé par approcher, nous servir plus près. Puis, à un moment donné, on m'a demandé si ça me dérangeait de prendre le café avec le monsieur. Alors, je dis, moi, pas du tout. C'était le chef de la police privée du président de la République. Parce que, naturellement, le président de la République avait sa garde du corps et avait un officier qui était chargé de la garde, de la protection du président. Je n'ai jamais reparlé. Enfin, on se voyait le matin, on prenait le café, c'était fini. Mais est venue la guerre, est venue l'exode, est venue la ruée sur le Portugal. Et à ce moment-là, il fallait avoir un cachet de la police. Vous imaginez comment ça se passait pour moi, qui pouvais, à toute heure, je pouvais entrer par la porte de derrière et dire « Bonjour, commandant Amado, comment allez-vous » Vous savez, ce monsieur, il m'intéresse beaucoup. Il s'appelle Pierre Lazareff, il s'appelle Arthur Kessler, il s'appelle Joseph Kessel, il s'appelle « Oh, mais ce type-là », etc. « Non, 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 vous trompez, commandant, pas du tout. » Ça, c'est un moment extraordinaire de chance.
Viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa.
parce qu'à ce moment-là, à Lisbonne, on rencontrait tout le monde, hein, absolument tout le monde. Quand est venu le duc de Windsor et la duchesse de Windsor, qui n'avaient jamais donné d'interview après l'abdication, ils étaient au bord de la mer, à Cascais, et dans la maison du plus riche banquier, Ricardo Spirito Santo. Et alors la presse était là, le soir, et on ne vous laissait pas entrer, donc on était assis sur des rochers au bord de la mer, on s'embêtait. Et il n'y avait pas de raison que ça cesse, puisqu'on avait dit qu'on ne recevait pas la presse. Seulement, personne ne bougeait. Et j'avais avec moi un photographe, qui était un vieux photographe, pas vieux, non, un vieux du métier, mais un type gros comme ça, tout rond, avec qui j'avais fait le voyage d'Afrique aussi, que je connaissais bien. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, on n'a pas chaud sur la barbe, on rentre. J'ai une idée. Attendez-moi. Il est entré, il est passé par les cuisines, c'était un débrouillard. Il était gros comme tout, il se faufilait partout. Il est allé à la cuisine, il a rencontré le personnel, et il a rencontré un des serveurs qui servait le dîner, et il lui a dit, vous allez dire à l'oreille à M. Ricardo Spirito Santo, c'est-à-dire ce grand banquier, qui parmi les gens qui gardent à sa porte dehors la nuit, il y a une dame. Or, Ricardo Spirito Santo était l'homme le plus galant du monde. Il a dit, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Alors, il a une idée. Il a fait dire à mon photographe qu'il ne pouvait pas me recevoir, mais que je vienne le lendemain à 11h. Alors, mon photographe est venu, il m'a dit ça dans l'oreille, et j'ai encore un petit peu grogné en disant que j'avais froid aux pieds. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mes enfants, moi, si ça vous amuse d'attendre, très bien, mais moi, je rentre me coucher. Or, j'étais le diario de noticias, c'est-à-dire le Figaro, à l'échelle. Moi, je m'en vais. Et les autres ont dit, ben, pourquoi pas, on s'en va, on s'en fout, on s'en va. Et le lendemain, à 11h, j'avais emprunté un chapeau, parce que je n'avais pas de chapeau. Mais comme il ne m'allait pas, je le tenais dans la main. J'ai une photo d'ailleurs, superbe. Et alors, il y a un problème aussi, je n'avais pas de bas. Mais enfin, on était un peu brunis. Et j'ai interviewé le duc de Windsor et la duchesse, une interview minable, parce qu'il ne fallait pas parler de ceci. Chaque fois qu'on parlait d'une chose, il ne pouvait pas. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a combien, 2 ans, 3 ans, tout d'un coup, j'ai reçu des tas de coups de téléphone en me disant, cette interview avec Windsor, quand on a dit que Windsor était allé au Portugal pour avoir une entrevue secrète, pour faire reprendre sa place sur le trône et traiter avec l'Allemagne. Et on est allé déterrer cette interview, encore une fois, qui n'avait aucun intérêt, en croyant tout ça que c'était codé, en me disant, mais c'est pas vrai cette interview, ils n'auraient pas fait une interview si grande parce qu'on avait mis une grande photo, il n'y avait rien à dire. Et ça, c'était important, pas du tout, c'était pas important. Mais je veux dire que d'être une femme, quand on dit, ah, le métier, c'était dur pour les femmes, moi, je trouve pas, je trouve qu'au contraire, on avait des tas de trucs comme ça qui vous arrangeaient bien la vie. Alors, pendant ce moment-là, il n'y avait pas de cinémonde. Le directeur, le Jean-Michel Pagès, qui était le grand patron, a été mobilisé. Tous les rédacteurs étaient mobilisés ou étaient partis, ou étaient ailleurs. Et Cinémonde n'existait pas. Et puis, à la Libération, moi, je suis revenue au début 45. Et Maurice Bessy, qui était de Cinémonde, qui était d'ailleurs aussi, avait été nommé directeur, rédacteur en chef. On était co-rédacteur en chef, parce qu'à ce moment-là, moi, je faisais beaucoup de sous-titres et je ne pouvais pas m'occuper uniquement de Cinémonde. Il me dit, il faut avoir du papier. Il faut avoir du papier pour tourner. Enfin, mais ça, il faut que ça soit donné d'une façon spéciale. Or, il se trouve que André Malraux était à ce moment-là ministre de la Culture. Je lui ai demandé du papier pour Cinémonde. Et il n'y avait pas de raison qu'il refuse, parce que ce n'était pas un journal qui avait rien sur la conscience pendant la guerre, puisqu'on avait cessé simplement, faute de combattants, faute de rédacteurs, faute d'argent, le Cinémonde s'était sabordé au début de la guerre. Par conséquent, on était honorable du point de vue de l'épuration. Par conséquent, il nous a donné le papier pendant le temps où il était ministre. Donc, le Cinémonde a repris sa course avec Bessy comme directeur et moi comme première rédactrice, enfin rédactrice, mais pas du tout salariée, enfin à la pige. Et ça a duré jusqu'en 67 quand ça a été fini. Et là, la bêtise de Maurice Bessy, qu'il n'a pas vu clair, c'est qu'à ce moment-là, il fallait que Cinémonde s'oriente vers la télévision. Or, il n'y croyait pas, Maurice Bessy. Alors, il a supprimé le journal. À ce moment-là, c'était d'ailleurs tout à fait autre chose. C'était devenu bien plus important. Il y avait une rédaction bien plus importante. C'était, moi, je n'y allais que pour donner des papiers. On me les commandait par téléphone. J'allais les donner. Je faisais les légendes. J'avais même pas une table. Mais j'avais beaucoup de copies, là. J'ai toujours beaucoup travaillé pour eux.
Et vous faisiez également du sous-titrage? Vous avez parlé
de sous-titrage? Ah, ben, sous-titrage, ça, j'en ai fait avant la guerre. C'est un jour, on m'avait dit que j'avais mon nom plus souvent sur l'écran que je sais plus quelle était la grande vedette d'alors. Et c'est vrai, parce que j'avais commencé par faire, toujours par hasard. J'étais allée à Londres. Et j'avais vu un film que j'avais beaucoup aimé. J'en avais parlé dans Cinémonde.
Quel film?
Ça s'appelait, ça n'a eu aucun succès, ça s'appelait 10 petits pieds. 10 little feet. C'était une histoire, l'histoire d'un écrivain qui avait 5 enfants, et que du fait qu'il avait des enfants, il n'arrivait pas à écrire ce qu'il voulait. Enfin, c'était le sujet, c'est ça. Et j'avais fait un article. Et Lemley lui-même, Lemley, Universal Film, a eu connaissance de ça et a dit comment on parle de ce film qui n'est pas encore venu en France. Et il m'a téléphoné, comment vous avez vu ce film? J'ai dit, j'étais à Londres. Pourquoi vous étiez à Londres? Parce que je sous-titrais les films qui passaient l'Égypte, le Liban, etc. Il y avait toute une série de films américains qui ne passaient pas en France pour des raisons de censure ou parce que c'était intéressé par la France. Et alors ces films-là, il fallait les traduire, c'était les pays francophones. Il fallait quelqu'un qui les sous-titre. Et comme personne ne voulait le faire, je l'avais fait. Et comme il ne venait pas en France, il fallait aller à Londres. Enfin, oui, bien. Et comme j'étais allée à Londres, j'avais vu le film. Et comme j'avais vu le film, j'ai fait un papier. Et comme j'ai fait le papier, Lemley l'a vu. Et comme Lemley l'a vu, il m'a demandé si je faisais des sous-titres, pourquoi je ne les ferais pas pour Universal Film. Et j'ai commencé par Backstreet. Le premier que j'ai fait, c'était Backstreet, qui a eu un succès délirant.
Ah oui,
et là-dessus est venu... J'ai eu tout le monde. Hein, à tel point qu'au moment où je suis partie pour l'Afrique... Les Américains m'avaient proposé, on faisait des sous-titres grattés, qui étaient très laids, hein, qui n'étaient pas très lisibles. Ils avaient dit, si au lieu de faire chacun pour soi des sous-titres dans une maison française qui gratouille la pellicule, si on avait quelqu'un ici qui fasse les sous-titres sur place et qu'on tirerait les copies avec déjà les sous-titres, ça serait mieux. Mais comme ils ne pouvaient pas, chacun considérait que le sous-titre c'était quand même un petit peu inférieur, ils ne pouvaient pas faire venir à New York chacun quelqu'un. Ils avaient décidé de faire un pool et que j'aille. Et j'étais sur le point d'aller quand ma mère a pleuré en me disant « tu vas aller aux États-Unis, je ne te verrai plus jamais, n'y va pas ». Je ne suis pas allée, je suis partie pour l'Afrique, je ne l'ai jamais revue parce que je ne suis jamais rentrée en France avant qu'elle soit morte. Il y a aussi ces hasards-là. Je trouve que la vie s'est faite d'un tas de tout petits instants qui sont très précieux. C'est ça qui lui donne tout son prix. Mais il ne faut pas les perdre, il faut les attraper au vol et les garder. Je sais bien que maintenant, il faut être spécialiste, il faut se connaître un métier à fond avant de le faire. Peut-être c'est bien, j'en sais rien. Moi, j'ai commencé et j'ai tout fait en apprenant sur le tas. Parce que j'ai commencé à 17 ans et je n'avais rien. Je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de spécialité, je n'avais pas de talent particulier. Je n'avais personne pour me conseiller parce que mes parents étaient des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de faire leur place. C'était des gens de la Première Guerre où les foyers avaient été détruits. Les gens qui rentraient, les soldats qui rentraient souvent ne retrouvaient pas leur travail. Tout ça, la vie était très difficile. Elle n'était pas pénible pour moi parce que j'étais une enfant et j'ai été une enfant gâtée à travers des conditions de vie souvent précaires. Et donc, il a fallu que je me débrouille et je me suis toujours débrouillée en essayant de capter les choses qui passaient. Alors, il y a évidemment des choses que je ne sais pas faire, que je n'ai pas fait bien, certainement, mais je les ai toujours fait avec plaisir et avec intérêt, parce que chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, même quand ça ne donne pas de résultat, on a appris quelque chose. Alors, par exemple, nous avons fait les 80 ans de Chardonne, nous avons fêté les 80 ans de Chardonne et nous avons fêté les 80 ans de Monfred. Alors, on avait fait venir dans la Casa de Portugal, ça s'appelait à ce moment-là, vraiment un très très beau bateau que nous avait prêté Jacques Cuguel, le grand collectionneur. Et puis, je faisais fonction d'hôtesse. Et alors, je parlais à mon frère qui avait 80 ans par définition, mais c'était pour ses 80 ans. Et alors, il me racontait des choses magnifiques. Puis alors, nous disait, alors, comprenez, l'année prochaine, je vais faire ça. Mais alors, ça sera un peu long parce que je prépare aussi pour dans 3 ans. Et moi, je le regardais. Je dis, mon petit vieux, tu ne te rends pas compte que tu as 80 ans et que tu es en train de faire tous ces projets. Voilà. Et ben moi, maintenant, moi, je suis comme mon frère. Et je trouve qu'il avait bien raison. Et que c'est comme ça. Mais je vous assure, je pense souvent à ça. Chardonne, lui, au contraire, il avait tous ses amis autour de lui, tous les anciens hussards. Et à un moment donné, quand il est parti, tout le monde était ravi. C'était vraiment très, très joli, très bien réussi. Et alors, il a dit, je crois que José lui a dit, mais vous savez, Chardonne, on fêtera aux 85 ans avec les mêmes. Il a dit, ah oui, avec plaisir. Mais si je suis un peu en retard, ne m'attendez pas.
C'était Mémoire du siècle. Aujourd'hui, Dominique Jaïr rencontrait Suzanne Chantal. Chef opérateur du son, Édouard Campras, chargé de réalisation, Gilles Mardirossian.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 août 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Mm-hmm.